Bonsoir et bienvenue dans En Deux Noirs, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Rapide sommaire de cette émission, une chronique sur une série de romans mettant en scène un des personnages emblématiques et historiques du polar. Je vous laisse un peu mariner, je vous dirai ça dans deux minutes. Et puis, les romans noirs qui sont parus dans cette rentrée, enfin je crois chaque...
Depuis l'été, oui.
Depuis l'été.
Avec moi, j'ai deux romans de train,
voilà.
Vous verrez.
Voilà. C'est pas les prix polar SNCF, mais...
Non, pas du tout.
Alors justement, en parlant de prix, l'automne, c'est feuilles mortes, les jours qui raccourcissent et les prix... Les listes des prix littéraires qui rallongent. On essaie de vous tenir au courant, d'autant plus que là, ce sont justement deux romans dont on vous a parlé la saison dernière qui sont récompensés. Ils ont été décernés à Toulouse au sein de TPS.
Toulouse Polar du Sud.
Voilà, c'est un festival qui s'est passé le week-end dernier. D'abord, le prix Violeta Negra Occitanie. La sélection était très intéressante à voir sur le site de TPS justement. Et le vainqueur est Maurizio Di Giovanni, l'italien, avec les packs du commissaire Riccardi, aux éditions Paillot Rivage, dans la collection Rivage Noir. Citons la traductrice Odile Rousseau. Et puis un autre prix a été décerné ce même jour, le prix des chroniqueurs, qui a été attribué à Pension complète de Jackie Schwartzmann, un roman drôle, corrosif, caustique, aux éditions du Seuil, collection Cadre Noir. Je crois d'ailleurs que ce roman qui était aux éditions du Seuil est maintenant réapparu
en collection de poche
au Point Seuil.
Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les saisons précédentes sur le site ondenoir.com. N'hésitez pas si vous voulez savoir de quoi parlent ces deux romans et d'autres, bien évidemment.
Alors comme je vous l'ai annoncé, on va se pencher sur un personnage très connu, enfin je pense encore très connu, et c'est peut-être aussi une manière de le connaître à nouveau, de s'en souvenir. Nous allons nous pencher un peu sur les nouvelles enquêtes de Nestor Burma. C'est une collection qui a maintenant pratiquement 2 ans. Je crois que le premier est paru en février 2018. Et il y a 5 titres à son actif. C'est aux éditions French Pulp. Nestor Burma, le fameux détective de Léo Mallet, qui a déjà été largement et librement adapté. Une série télé dans les années 90, avec le très très sémillant Guy Marchand. N'oublions pas aussi les très belles adaptations en bande dessinée de Jacques Tardy.
Et de ses suivants plus tard.
Voilà. Ici, Nestor Burma est looké 21e siècle. Et c'est des auteurs actuels qui s'en emparent. Évidemment, des auteurs morts, ça n'écrit pas. Comme dans la première et deuxième série, il est impératif que l'intrigue se situe dans un quartier de Paris ou un coin de Paris. Non investi à l'époque par le célèbre écrivain. Enfin, ça ne va pas toujours être possible, étant donné que sur les 20 arrondissements, Léo Mallet en avait écrit sur 15, donc on va certainement chevaucher à un moment ou à un autre des endroits hantés par Léo Burma.
Bon, ils prendront les communautés de communes.
Oui, mais effet de la mondialisation, on pourra même se retrouver dans une ville d'Europe. D'ailleurs, comme un des derniers épisodes, puisque celui de Nadine Monfils, qui est paru assez récemment, se situe majoritairement à Bruxelles. Son titre, Crime dans les Marolles. Les Marolles, c'est un des quartiers de la capitale belge. Le plus de cet épisode, c'est mêler le personnage littéraire au personnage télévisuel. Car Nestor Burma accompagne Guy Marchand, ou peut-être c'est l'inverse, non. Puisque en fait, c'est Guy Marchand qui est le parrain du BIF. Vous savez pas ce que c'est que le BIF, c'est le Festival du film fantastique de Bruxelles. Comme Léo Mallet, Nadine Monfils s'inspire d'un fait réel pour tricoter son intrigue. C'est l'affaire Léopold Storm, ici transformée en Léo Strom, un jeune homme accusé d'avoir assassiné ses parents et sa sœur et qui clama pendant des années son innocence. On ne vous dira pas la fin s'il est coupable ou innocent, mais l'idée de mélanger les affres de Nestor Burma et de Guy Marchand, c'est plutôt jouissif. Comme Léo Mallet parlait du Paris qu'il aimait, un Paris populaire en pleine mutation, l'auteur belge s'en donne à cœur joie pour nous faire découvrir les Marolles, ses lieux cachés, ses figures locales, les films inspirés par ce pays. Chaque titre de chapitre est d'ailleurs une phrase d'une chanson qui évoque aussi le plat pays, dont le plat pays d'ailleurs. On retrouve l'univers
de Jacques Brel, bien évidemment.
Merci. On retrouve l'univers barré de Nadine Monfils, sa poésie, le côté surréaliste parfois, mais aussi son amour et sa tendresse pour les petites gens, les humbles. Aussi pour les givrés, les fadas, les lunaires, les filets du bocal. En tout cas, les zygomatiques sont grand ouverts et ça fait du bien. Alors on va juste, avec le deuxième roman de cette série, faire un petit intermède musical. Voire pour les moins de 30 ans, parce que série des années 90, bah, il a commencé il y a pratiquement 30 ans. C'était
générique de fin
de la série télé. Oui, bientôt 30 ans. Autre épisode, celui-là paru, je pense, il y a à peu près un an, c'est Les Belles de Grenelle. Et c'est l'épisode écrit par Michel K. Autre regard, autre écriture, autre façon d'aborder ce personnage, autre type d'hommage aussi. Ici, Nestor Burma, il est appelé par le commissaire Farou. Attention, pas l'original, parce que l'original, il est soit à la retraite grabataire, soit complètement mort. Donc, maintenant, c'est sa fille. Et oui, c'est la commissaire Farou. Sexy à souhait, d'ailleurs, cette commissaire. Donc, je disais, Nestor est appelé...
Quitte à inventer un nouveau personnage, autant le faire sexy.
Oui, il y a aussi la secrétaire, qui est une jeune et très jolie noire. Voilà, on est plus dans l'air du temps, on va dire. Donc, je reprends. Nestor est appelé sur une scène de crime pour y découvrir son amour de jeunesse, Brigitte Merlier, égorgée. Alors, Nestor, avec son petit cœur d'artichaut, se donne comme mission de découvrir l'assassin de son premier amour. Celle-ci, Brigitte, était documentariste et semblait sur le point de publier des révélations très, très gênantes. Mais sur qui et sur quel scandale, c'est pas évident. Burma va donc hanter les milieux éditoriaux afin de découvrir et le manuscrit et la clé du mystère. Et ça donne des anecdotes, des scènes assez truculentes, comme une scène de l'inauguration du livre de la foire du livre du salon du livre de Paris, pardon, ou alors une scène avec une éditrice assez haute en couleur.
Et Michel K, qui a écrit un très grand nombre de romans, depuis le temps, connaît assez bien ce milieu.
Oui, je pense que derrière chaque
éditeurs parisiens.
Derrière chaque personnage, il y en a qui pourraient bien un petit peu se retrouver. Mais tout ça, c'est toujours très gentil, de toute façon. Autre mission que se donne Nestor Burma au début de cette enquête, c'est ne plus utiliser son vocabulaire de chartier. Ou plutôt, à l'époque, d'ouvrier des Halles, mais s'exprimer en langage soutenu, en de beaux termes fleuris, souvenir de Brigitte Merlier qui, à l'époque, au lycée...
L'empêchait de dire des gros mots.
Voilà, le corrigeait sans cesse. Alors, on va naviguer de niveau de langage en un autre niveau. Tout cela, évidemment, pour le plus grand régal des lecteurs. Et en gros, je trouve que c'est un très joli exercice de style auquel se livre Michel K, qui nous a habitués depuis des années à des pages assez sublimes. Donc, je vais vous lire un petit extrait qui montre les efforts de Nestor Burma. Alors, en fait, là, il répond justement à la commissaire Farou. « Je vous saurai gré, madame, de me communiquer cette fois les progrès de l'enquête dans la mesure du possible, de l'autorisable. Pratiquement, je crois être l'être le plus proche de ce qu'on pourrait considérer comme la famille de Brigitte. De mon côté, je ne garderai secrète aucune avancée de mes investigations. » Réponse de la dite commissaire. Vos instigations, savoir gré, mais vous n'avez pas investigué. Dois-je encore vous rappeler que je peux vous faire tomber à tout moment pour le braquage à main armée d'une agence de change pendant vos années terroristes d'ultra-gauche, radicale, exploit qui a coûté la vie à un de vos complices? Non? Mais alors, vous me laissez travailler, vous restez à ma disposition. Et puis, qu'est-ce qui vous arrive, Burma? Pas de blague de carabin, d'humour, vermeaux, aucun cynisme? Pas un regard lubrique sur ma poitrine ou mon cul? Un langage châtié? Vous jouez à « L'amour est dans le parc », je vous demanderai presque en mariage si vous voulez, je voulais faire une fin. Quelques lignes plus loin. Oh oui, faites-le. Je battrai des cils et accéderai à votre demande. Comme conjoint, j'aurai vos confidences sur l'oreiller. Je suivrai l'enquête de tout près et on divorcera une fois le coupable pincé. Pour l'instant, il faudra vous habituer. Je serai irréprochable à tout point de vue. Vocabulaire, morale, comportement, tenue vestimentaire, impeccable sous tout rapport jusqu'à la fin de l'affaire. Une dette personnelle à acquitter. Autant dire qu'il va faire quelques petits coups de canif à ses promesses et à son contrat. Donc je rappelle les deux romans dont je viens de parler, les nouvelles enquêtes de Nestor Burma, le premier Crime dans les Marolles de Nadine Monfils et le deuxième Les Belles de Grenelle de Michel Quint. Et comme dans la série, Guy Marchand jouait du sax, avec ses morceaux préférés étant quand même
avec
du jazz.
Avec plus ou moins de bonheur.
Oui, c'est sûr. On va écouter mieux.
On va écouter du jazz bien mieux. Un extrait du deuxième album du pianiste Frédéric Péréard. C'est un album en trio, mais dans le morceau que nous allons écouter, il reçoit le renfort du trompettiste Hermon Mehari et du saxophoniste, excellent saxophoniste justement, Baptiste Herbin. Et le morceau s'appelle Conversation with S ou Conversation with S. Quelques notes de musique, je vais vous amener en Inde avec le premier roman d'un auteur écossais qui s'appelle...
Ça fait toujours bizarre, mais bon.
Surtout que l'auteur s'appelle Abir Mukherjee. Son roman a pour titre « L'attaque du Calcutta d'Arjeeling ». Il est publié aux éditions Liana Levy et traduit de l'anglais par Franchita Gonzalez Battle. Donc évidemment, vous allez me dire « Oui, mais avec un nom comme celui-là, Abir Mukherjee n'est pas forcément vraiment des Highlands ». En fait, il est bien né en Écosse, mais de parents émigrés indiens.
Ceci explique cela.
C'est peut-être aussi pour ça que son roman se passe en Inde. C'est un polar historique qui se déroule juste à la fin de la Première Guerre mondiale, en avril 1919, à Calcutta, dans le delta du Gange. À l'époque, je rappelle, l'Inde est une colonie britannique. Il y a deux personnages principaux dans ce roman. Sam Windman, qui est un ancien de Scotland Yard, un vétéran de la Première Guerre qui l'a traumatisé, et sa nomination à Calcutta est une tentative de thérapie. Il faut dire qu'il a perdu sa femme d'une grave maladie pendant cette guerre, et qu'il est devenu un peu accro aux opiacés. Au départ, c'était pour soulager ses douleurs, maintenant il en fait une espèce de drogue. Le second personnage est aussi flic. C'est un sergent. Il est éduqué en Angleterre, il a fait un retour récent en Inde. Il est indien, c'est la nouvelle recrue, disons, locale de la police de Calcutta. Son nom, Surendranath Banerjee. Et donc, il est, bien qu'éduqué en Angleterre, il est donc d'origine indienne. Et ils vont enquêter tous les deux, d'abord sur le meurtre d'un notable dans un bas quartier de la ville, puis, comme le titre du roman l'indique, sur l'attaque du train Calcutta-Darjeeling. Au départ, Sam est encore plein de ses préjugés d'anglais, de mépris presque, vis-à-vis des gens...
C'est pas presque, c'est souvent du mépris.
Oui, alors, mais lui il se retient, mais il en a quand même, quoi. Ça change un petit peu au fur et à mesure au contact de son adjoint. Il va prendre au fur et à la mesure justement de son erreur, mais il va se confronter à l'esprit colonial des irréductibles notables, installés confortablement, prospérant sur le dos des Indiens, sans jamais remettre en question leur statut et surtout leurs bons droits. Le racisme et la corruption sont monnaie courante, et encore une fois, là aussi, pléonasme, les militaires sont tout puissants et aux ordres des anciens de la Compagnie des Indes. C'est le sergent Banerjee, donc, lui, je le disais, il a la double éducation. Et ça va faire beaucoup pour instiller du doute dans l'esprit de son chef. Il lui permettra aussi de se glisser dans des milieux qu'un flic blanc ne peut généralement pas approcher. Il fera d'ailleurs bien plus que l'aider. En 19... Donc je resitue le contexte historique. En 1919, la révolte, disons le mouvement indépendantiste, commence à prendre de l'ampleur. Et cela va jouer beaucoup dans l'enquête des deux protagonistes. Il y a d'ailleurs une phrase de l'auteur qui prend tout son sel dans l'actualité d'aujourd'hui, bien que donc, ça date de 1919.
Et donc, comme... Le roman est écrit aujourd'hui.
Oui, le roman a été écrit il y a quelques années. Et comme, évidemment, les indépendantistes, enfin ceux qui cherchent du moins à reprendre leur indépendance, on les traite de terroristes, il y a eu des lois qui ont été mises en vigueur. Alors à l'époque, elles s'appelaient les lois Rowlatt. Elles sont entrées en vigueur le mois dernier et nous autorisent à boucler quiconque est soupçonné de terrorisme ou d'activité révolutionnaire. Nous pouvons le garder derrière les barreaux pendant 2 ans sans procès. Du point de vue d'un policier, tout est grandement simplifié. Bien entendu, les Indiens ont réagi par la fureur et je ne peux pas dire que je leur reproche. Donc effectivement...
Toute coïncidence avec des faits réels ou avérés.
Avec quelques lois que nous subissons. Bon, on ne sait pas 2 ans encore, heureusement chez nous, mais ça pourrait peut-être venir. Pour un premier roman, c'est vraiment une belle réussite. L'intrigue elle-même, sa résolution, souffre parfois de quelques facilités que l'auteur offre à ses deux flics. Mais le style est agréable, les personnages sont vraiment bien vivants. Et pas seulement les personnages principaux. L'auteur de leur donne de la chair. Ils existent vraiment. Et Abir Mukherjee, donc l'auteur, n'oublie pas l'humour. Il y a quelques passages sur les Écossais. Donc, je rappelle qu'il est né en Écosse, qui ne sont pas piqués des vers. Parce qu'il y a aussi des Écossais, évidemment, parmi les Britanniques. En Inde, il y a aussi des Écossais.
Et
il y a
quelques passages... Ne va pas dire à un Écossais qu'il est britannique. Surtout pas. Oui, mais enfin, qu'il est anglais, disons.
Voilà, l'inadaptation de Sam au climat de l'Inde donne vraiment quelques passages savoureux. Et puis, c'est aussi la qualité d'un roman. On sort moins bête de la lecture de ce livre. Cela nous remémore quelques passages d'histoire que l'on a oubliés ou alors qu'on ne savait pas du tout sur l'indépendance de l'Inde. Et cela remet en perspective pas mal d'idées reçues sur les problèmes d'immigration aujourd'hui. Un rapide tour sur le site de l'auteur nous permet de constater que ces deux flics sont amenés à être récurrents en France, car en Angleterre, enfin en anglais du moins, il existe déjà 4 aventures, 4 enquêtes de Sam et Banerjee. Donc je pense qu'on les retrouvera bientôt dans nos librairies, bibliothèques et autres, et probablement dans cette émission.
En tout cas, en ce moment, là, maintenant, allez chercher. Il y a une très très belle couverture.
Très très belle couverture.
Rose verte, un peu foncée.
Ouais. Avec un train, enfin un wagon de train. Donc, Abir Mukherjee, l'attaque du Calcutta Darjeeling chez Liana Levy.
On peut peut-être citer le nom du traducteur qui font toujours des...
Alors, le nom du traducteur qui est une traductrice et elle s'appelle...
Fanchita González Battle.
Exactement. Voilà. À tout à l'heure.